Voilà donc trois dimanches, frères et sœurs, que Jésus nous enseigne en parabole. Peut-être est-il bon de retrouver chacune de ces paraboles. Elles sont au nombre de 7. La première, on s'en souvient, le semeur est sorti pour semer, il a semé dans son champ. Les différentes terres, le cœur, l'état de notre cœur, pour accueillir sa parole. La deuxième parabole, c'était la parabole du bon grain et de l'ivraie, c'était dimanche dernier. Et au milieu de la parabole de l'ivraie et du bon grain, ou du moins entre la parabole et son explication, il y avait deux autres paraboles. La graine de moutarde, ou le grain de senvé, la toute petite graine qui devient un arbre, et puis le levain dans la pâte. Et puis enfin, aujourd'hui, trois autres paraboles. Le trésor dans le champ, la perle précieuse et le filet qui ramène toutes sortes de poissons. Pourquoi est-ce que Jésus nous donne autant de paraboles? Pourquoi est-ce que l'Église nous fait entendre? C'est les paroles de Jésus. On appelle cette partie justement de l'Évangile de saint Matthieu les paraboles du royaume. Pourquoi est-ce que l'Église, pourquoi est-ce que Jésus nous enseigne de cette manière-là? On l'a entendu il y a 2 semaines, quand Jésus parle en parabole, il y a un double effet. Jésus illustre ce qui est de l'ordre du royaume, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre du mystère de Dieu, qui ne nous est pas accessible si facilement. Alors du coup, Jésus prend des comparaisons de notre vie courante, pour que nous comprenions à quoi ressemble ce royaume. Mais il y a cet autre effet qui est que, quand Jésus parle en parabole, il dissimule aussi d'une certaine manière ce qu'il veut dire. Il nous oblige à creuser pour comprendre. Le sens de la parabole n'est pas immédiat. Et Jésus disait, ceux qui ne veulent pas comprendre, ben, ils ne comprendront pas. Ceux qui ont l'esprit obtus, les paraboles leur voilent le mystère de Dieu. Peut-être pourrions-nous déjà entendre le fait que, dans la première lecture aujourd'hui, nous entendons cette belle prière de Salomon qui demande au Seigneur de lui donner la sagesse. Salomon, roi d'Israël, roi après son père David, le grand roi d'Israël. Salomon qui fait une prière assez juste en disant « Seigneur, tu me donnes de gouverner ce peuple ». Eh bien, ce dont j'ai besoin, c'est la sagesse, c'est la capacité de discerner, de conduire, de gouverner. Nous pourrions nous aussi demander au Seigneur la sagesse pour comprendre les paraboles. D'autant plus qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'explication. Sur la parabole du semeur ou sur la parabole du bon grain et de l'ivraie, Jésus donnait les explications, il détaillait le sens de la parabole. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc que le Seigneur éclaire nos esprits, qu'il nous donne son Esprit Saint, lui qui est la lumière de nos intelligences, pour que nous entrions dans le sens des paraboles. Et alors, si nous retenons les trois paraboles d'aujourd'hui, pourrions remarquer que les deux premières se ressemblent un peu. Il y a quelque chose qui est caché, quelque chose qu'il faut chercher, quelque chose qui met dans la joie quand on l'a découvert. Quelque chose qui a plus de prix que tout le reste. Le trésor dans le champ ou la perle de grande valeur. Et de toutes petites paraboles qui commencent par « Le royaume des cieux est comparable à ». Et quel est ce royaume des cieux? De quoi s'agit-il? Et Jésus l'avait déjà dit dimanche dernier, « Le royaume des cieux est comparable à ». Le royaume des cieux est comparable à un trésor, le royaume des cieux est comparable à une perle de grande valeur. Le royaume des cieux, est-ce qu'il s'agit des cieux comme notre Père qui est aux cieux? Donc souvent on nous dit loin, quoi. Est-ce qu'il s'agit de la vie avec Dieu, mais dans l'au-delà? Ce qu'on ne connaît pas? Ce qui nous paraît tellement éloigné. quand saint Matthieu parle du royaume des cieux, il dit exactement la même chose que quand saint Marc et saint Luc parlent du royaume de Dieu. Et saint Matthieu est un bon juif. Et du coup, comme tout bon juif, il fait très attention à la manière de prononcer ou aux occasions de prononcer le nom de Dieu. Parce qu'il veut avoir beaucoup de respect pour le nom de Dieu. Alors du coup, il ne l'emploie que très peu, et comme tout juif, il emploie des moyens détournés pour nommer Dieu. Alors il dit « le royaume des cieux », mais ça veut dire « le royaume de Dieu ». C'est exactement ça que ça signifie. Et donc si c'est le royaume de Dieu, ça veut dire le royaume de Dieu dans ce qu'il est actuel. Et donc ça veut dire la présence de Dieu en nous, finalement, la présence de Dieu au milieu de nous, mais nous savons que ce n'est pas juste au milieu de nous comme à côté de nous, mais c'est au milieu de nous comme en nous, au plus profond de nous. Donc ce royaume de Dieu, finalement, c'est cette vie en présence de Dieu. C'est la vie chrétienne. C'est rien d'autre, finalement. C'est la vie que nous avons reçue au baptême. Notre vie de baptisé. Et voilà que Jésus nous dit que ce don de la vie de Dieu en nous, ce don de la grâce, c'est le nom que nous lui donnons aussi, est précieux et unique. Et que rien ne peut concurrencer cette vie. Alors il faut être prêt à tout vendre, à tout laisser, pour donner à ce royaume de Dieu la première place. On pourrait retenir de ces deux petites paraboles, le trésor et la perle, qu'effectivement, la vie de Dieu en nous, c'est un don. C'est le fruit d'une recherche, on pourrait dire, c'est une forme de conquête, mais comme une révélation aussi. Un don de Dieu, et en même temps, quelque chose de si important que finalement tout le reste s'efface devant. Ou du moins, tout le reste n'a plus de sens qu'en étant référé à la présence de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne, frères et sœurs? Est-ce juste une parenthèse au milieu de toutes nos autres activités? Donc finalement, une activité parmi tant d'autres, une habitude parmi tant d'autres? Ou bien est-ce le cœur de notre vie, encore une fois, où tout le reste, finalement, d'où tout le reste surgit. Si Dieu est présent en nos cœurs, notre vie, tout entière, tous les instants de notre vie, n'ont de sens qu'avec Dieu, désormais. Ou alors, on comprend bien, si Dieu est un trésor parmi d'autres, on pourrait dire comme ça, de manière un peu positive, et bien finalement, il y a tellement de choses qui lui font concurrence qu'on a l'impression de revenir un peu à la terre envahie par les ronces dans la parabole du semeur. Au bout du compte, la présence de Dieu va disparaître, enfin, va être étouffée. Un don, un cadeau que Dieu nous fait, unique, et qui mérite qu'on lui sacrifie tout pour donner à Dieu la première place dans notre vie, pour vivre sans cesse avec lui. La vie chrétienne, on pourrait dire, peut-être la conquête de la vie chrétienne, c'est cela, c'est de vivre sans cesse en présence de Dieu. Mais la troisième parabole, la parabole du filet, elle va ajouter encore quelque chose. D'ailleurs, elle est assez semblable à la parabole du bon grain et de l'ivraie, parce que dans cette parabole du filet, le Seigneur dit encore qu'il a du temps et qu'il enverra ses anges faire le tri. Pas très beau, hein, mais c'est comme ça. Hein. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes au moment de la fin du monde. Et dans la parabole de l'ivraie et du bon grain, c'était la même chose. On attendait le dernier moment pour trier la mauvaise herbe du bon grain. Alors, ce que nous dit le Seigneur, c'est que pour s'emparer de cette vie qu'il nous donne, sa présence, faut du temps. Il faut y consacrer du temps. Il faut y mettre, on pourrait dire, toute la durée de sa vie. Alors là, on peut revenir aussi à la prière de Salomon, parce que notre Salomon, tout félicité qu'il est par le Seigneur, « Oh, tu m'as demandé, dit le Seigneur, non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais tu m'as demandé un esprit de discernement, d'attention, l'art d'être attentif et de discerner et de gouverner. » Le Seigneur loue Salomon. Seulement Salomon, même s'il a reçu la sagesse du Seigneur, d'abord il a commencé son règne comme bien souvent en écartant ses ennemis de manière plus que violente, en les éliminant tout simplement. Et puis surtout, on pourrait dire peut-être que la sagesse du Seigneur l'a converti, donc il va exercer la sagesse. On se souvient par exemple du jugement de Salomon. Ces deux femmes qui viennent au roi et qui disent, parce que chacune avait un enfant, l'un des deux enfants est mort, là. Chacune se dispute l'enfant qui reste. Il est à moi, il est à moi. Salomon dit, prenez une épée, coupez-le en deux et donnez la moitié à chaque mère. Forcément, le cœur d'une des femmes se déchire, elle dit, si c'est comme ça, donnez-lui. Voilà. La sagesse de Salomon permet de dire, voilà qui est la mère de l'enfant. Mais, ça, c'est un exemple dans la vie de Salomon, peut-être deux ou trois. Après, Salomon a construit le temple de Jérusalem, un grand temple, merveilleux, magnifique. Simplement, l'a-t-il construit si beau pour la gloire de Dieu ou pour sa gloire à lui? On n'est pas bien sûr. Il a un peu tiré de la gloriole du fait de faire de grandes œuvres pour le Seigneur. Un peu comme Hérode, le grand qui reconstruira le temple de Jérusalem, encore plus beau qu'avant, mais pour briller aux yeux des hommes, donc ça colle pas. Et puis surtout, Salomon, à la fin de sa vie, enfin, dans les longues années de la fin de sa vie, va se laisser détourner par de très très nombreuses concubines, et non seulement il y a ce nombre incroyable d'épouses, mais surtout, elles amènent dans le peuple, parce qu'il les prend chez les peuples voisins, elles amènent dans le peuple les idoles, et donc le culte idolâtrique en Israël. Alors on se dit, alors Salomon qui a reçu la sagesse du Seigneur, à la fin de ses jours, il ne brille pas vraiment par sa sagesse, au contraire, il détourne le peuple, et ce sera dramatique pour la suite de l'histoire d'Israël. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que ce n'est pas parce qu'on a reçu la sagesse de Dieu un jour, qu'on est capable de la garder tout le temps. Et que là aussi, il y a quelque chose à mettre en œuvre pour être fidèle. Voilà peut-être un autre mot qui se dégagerait de cette parabole du filet ou de la parabole de l'ivraie et du bon grain, la fidélité jusqu'au bout. Pour conserver ce que le Seigneur a donné. La vie chrétienne, c'est ça aussi. C'est cette dimension de fidélité au Seigneur. On voit bien d'ailleurs que la fidélité, elle n'est belle que quand elle est quotidienne. Elle n'est pas juste un grand élan d'un moment. On voit bien que quand on dit habituellement dans la vie chrétienne « chrétien pratiquant », si pratiquant, ça veut dire juste la messe du dimanche, on revient à l'idée d'une petite parenthèse dans la vie de tous les jours. Je me souviens du Saint Curé d'Ars qui, la Révolution française étant passée par là, hein, juste avant qu'il n'arrive à Ars, juste avant qu'il ne soit prêtre d'ailleurs, Saint Curé d'Ars se battait pour la sanctification du dimanche. Et il disait à ses paroissiens, le Seigneur vous donne 7 jours. 6 pour vous, 1 pour lui. Et vous vous débrouillez encore pour lui voler son jour. Mais en fait, c'est peut-être pas juste 6 plus 1. Peut-être que tous les jours sont à Dieu. Hein. Et que la fidélité, justement, c'est d'être autant à Dieu le dimanche, et particulièrement ce point culminant du dimanche qui est la messe, que finalement tous les autres jours dans nos activités quotidiennes. Voilà le combat quotidien de la fidélité, celui qui nous amène justement jusqu'à la fin des temps sans crainte. Alors on pourra dire que cette fin des temps est quelque chose de beau et qu'on attend, et non pas quelque chose qui nous procure de la peur, qui nous fait peur. En tout cas, on comprend bien que le Seigneur nous invite à quelque chose de très profond dans notre vie chrétienne, dans notre accueil de son royaume. Et peut-être la dernière phrase de l'Évangile signifie-t-elle ça aussi. Tout disciple du royaume est comparable à un scribe, à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Le neuf et l'ancien, c'est référence un peu à l'Ancien Testament ou au Nouveau Testament. Si notre vie chrétienne se vit à la manière dévoyée, parce que les prophètes ont parlé quand même pour montrer que ce n'était pas juste, dévoyée de l'Ancien Testament, qui consiste à croire qu'on fait les choses juste de manière extérieure et tout va bien aux yeux de Dieu. Si notre vie chrétienne se limite à cela, eh bien finalement on la vit effectivement à la manière de l'Ancien Testament. Et si elle est renouvelée sans cesse par la rencontre avec Jésus, et qu'on découvre que finalement elle est vraiment la vie de chaque instant avec le Christ, et non pas juste de manière extérieure, mais au plus profond de nous-mêmes, alors on est vraiment disciple du royaume. Accueillons, frères et sœurs, la parole de Dieu et implorons le Seigneur de nous aider à ce que cette parole porte du fruit, on pourrait dire par l'ampleur de ce qu'elle touche dans nos vies, et aussi par la fidélité quotidienne à laquelle elle nous invite. Amen.